Évidemment, alors dans la crainte absolue et le tremblement, j'aborde l'article 12. Sur l'élection. Qui est lié d'ailleurs aux articles précédents, de cette corruption et de cette condamnation générale où tous les hommes sont plongés, nous croyons que Dieu retire ceux que, dans sa volonté éternelle et immuable, il a élus par sa seule bonté et miséricorde en notre Seigneur Jésus-Christ, et cela sans considération de leurs œuvres. Nous croyons qu'il laisse les autres dans cette même corruption et condamnation pour démontrer en eux sa justice, tout comme il fait briller dans les premiers les richesses de sa miséricorde. Car ceux-ci ne sont pas meilleurs que les autres, jusqu'à ce que Dieu les distingue, selon le dessein immuable qu'il a arrêté en Jésus-Christ avant la création du monde. Il n'est d'ailleurs personne qui puisse s'approprier un tel bien par ses propres moyens, puisque de nature, nous ne pouvons avoir un seul bon mouvement, aucune bonne disposition de notre volonté, ni aucune bonne pensée, jusqu'à ce que Dieu nous ait devancé et nous y ait disposé. On dit quelquefois que la doctrine de l'élection, de la prédestination, soit démobilisatrice pour l'évangélisation. En effet, selon une mauvaise compréhension de cette doctrine, on pense que si les carottes sont cuite, et c'est le titre choc d'un mémoire de maîtrise sur la prédestination, les carottes sont-elles cuites, c'est le titre du mémoire, soutenu devant la très sérieuse faculté de théologie de l'université de Lausanne par mon ami Jean-Michel, prénom Sordet, C-O-R-D-E-T. Mémoire, évidemment, que vous trouverez à la bibliothèque. Les carottes sont-elles cuites? Si les carottes sont cuites, autrement dit, si les dés sont déjà joués, alors, si l'homme est prédestiné, tout à fait, véritablement, alors comment peut-on placer chaque homme devant une responsabilité? Aussi, vous me permettrez de commencer ce cours en imaginant des interlocuteurs non-croyants qui chercheraient, ça arrive, se tracassant quelque peu du rapport entre la responsabilité de leur liberté et la volonté souveraine de Dieu, et si j'avais affaire à de tels interlocuteurs, je prendrais comme texte d'entretien, évidemment un grand texte classique, je prendrais la rencontre de Jésus avec Nicodème, Jean 3, versets 1 à 21. Et je prends aussi ce passage parce que j'ai cru comprendre que vous aviez quelques exégèses de Nouveau Testament là-dessus éventuellement. Non, c'est ça? Non, c'est pas ça? Si. Ah, entendez-vous un peu. Alors, voici ce qu'un évangéliste attaché à la doctrine de la prédestination pourrait dire à ses auditeurs en recherche. nous n'avons pas rien à faire, voilà ce que je dirais à celui qui se tracasserait, nous n'avons pas rien à faire pour voir le royaume de Dieu et y entrer. Nous avons à croire en Jésus-Christ. En Jésus-Christ Seigneur et Sauveur. Et non pas l'inverse. Dans nos milieux, souvent, on considère Jésus-Christ comme Sauveur et éventuellement comme Seigneur. Mais c'est parce qu'il a été le grand Seigneur qu'il a pu être notre Sauveur. Alors il faut proclamer la Seigneurie de Jésus-Christ. Je referme la parenthèse. Jésus-Christ, Seigneur, unique Sauveur, Dieu lui-même, devenu homme pour le salut du monde. Pour le salut de quiconque croit. Le salut, mon salut, ton salut, notre commun salut, est en Dieu seulement, est en Dieu le Christ seulement. Notre responsabilité est un fait. Nous devons croire en lui d'une vraie foi. Et cette vraie foi est personnelle. Voilà ce que je dirais à l'interlocuteur. Chacun de nous est responsable de la manière dont il répond, de son attention et aussi de son inattention, de sa foi obéissante et de son refus désobéissant. Par sa parole, par son évangile, Dieu place chacun devant un choix entre la vie et la mort, entre le salut et le jugement, et ce choix est le plus important que chacun ait à faire. Nul n'a d'excuse devant Dieu s'il s'aveugle sur le sérieux, sur la gravité de ce choix. Mais cependant et heureusement, pour que nous puissions croire, la décision humaine et personnelle nécessaire qu'est la vraie foi dépend de la décision de Dieu. L'acte humain et personnel qu'est la vraie foi dépend de l'acte de Dieu. Ce qui est impossible à l'homme est possible à Dieu. Le vent souffle où il veut. L'esprit souffle où il veut. L'esprit est souverain, il est efficace. Il est mystérieux dans son œuvre, il est souverain. Notre intelligence ne peut comprendre, et il m'est arrivé de l'avouer au chercheur de Dieu, notre intelligence ne peut comprendre comment s'accorde la réalité indéniable de notre responsabilité et la réalité non moins indéniable de la souveraineté de Dieu. En fait, quoi que nous pensions, nous ne pouvons échapper ni à la réalité de notre responsabilité, ni à la réalité de la souveraineté de Dieu. Nous devons croire en Jésus-Christ d'une vraie foi. Et je le dis à tout homme, les grands, les noirs, les blancs, etc. Tout homme, hein? Les hommes qui sont des hommes mâles, mais qui sont aussi des femmes, etc. À tout homme, je dis, tu dois croire. Dieu te fait commandement maintenant, instamment, de te repentir, de te convertir et de croire. La décision dont nous sommes responsables nous incombe. Quiconque Entendez bien, quiconque croit en lui n'est pas jugé, et celui qui ne croit pas est déjà jugé. Et cependant, la vraie foi est un don de Dieu. Et nous ne pouvons croire d'une vraie foi que si nous sommes nés d'en haut, que si le Christ purifie notre cœur et nous illumine intérieurement par son Saint-Esprit. Et qu'aucun ne pense et ne dise en lui-même, même pas toi, si cela dépend de Dieu, je ne suis pas responsable de ma décision. Car Dieu affirme et nous révèle dans sa parole la réalité de notre responsabilité. Ce n'est pas en la niant que nous échapperons à cette responsabilité qui est la nôtre. Et qu'aucun ne pense ni ne dise non plus en lui-même, pas même toi, si je suis responsable de ma décision, alors cela ne dépend pas de Dieu. Car Dieu affirme et nous révèle dans sa parole la réalité de sa souveraineté. Ce n'est pas en la niant que nous échapperons à cette souveraineté qui est la sienne. Car, non d'une pipe de bois de terre, Jésus est venu sauver. Dieu a tellement aimé le monde, ce monde ennemi et spirituellement mort, ce monde coupable et inexcusable, qu'il a donné son Fils unique, qu'il s'est donné lui-même jusqu'à la mort maudite et infernale de la croix. Évidemment, insondable mystère de l'amour ici. Et la proclamation de la bonne nouvelle de son amour, la proclamation de son évangile du salut, n'est pas du temps perdu. Cette proclamation n'est pas chose vaine. L'annonciation de la parole de Dieu est une œuvre commandée et elle est indispensable. C'est un commandement qui m'est fait de prêcher l'évangile à tout temps. C'est un commandement qui est fait à l'Église de prêcher l'évangile à tout temps. Elle doit le faire sans calcul. Je peux aujourd'hui m'adresser à ceux qui m'écoutent, et à toi qui écoutes, et à toi qui cherches peut-être, avec assurance et espérance, parce que l'Esprit de Dieu agit souverainement dans et par la parole pour susciter là où il lui plaît des cœurs régénérés et des croyants. Le bon berger, c'est moi, affirme Jésus dans le quatrième évangile. Je connais mes brebis et elles me connaissent. Je donne ma vie pour mes brebis. J'ai encore d'autres brebis qui ne sont pas de cette bergerie. Celles-là, il faut que je les amène. Elles entendront ma voix. Il y aura un seul troupeau et un seul berger. Le Fils unique de Dieu, élevé sur la croix, pour manifester jusqu'où va l'amour de Dieu pour le monde, le Fils unique de Dieu, élevé dans le ciel, où il a toute puissance, a seul le pouvoir, par son esprit, de vaincre l'incrédulité et l'opposition des cœurs, et de réduire la résistance acharnée et opiniâtre du péché, finalement, de faire revivre des morts. Parce que c'est cela dont il s'agit bibliquement. On va dans un cimetière, comme le cimetière d'Aix, là, et on dit aux morts qui sont là, et hop, là-dedans, levez-vous, que chacun, là, vous allez faire le travaux pratiques, c'est pas, avec ou sans un rôle calmaine, les travaux pratiques que vous pouvez faire sans, eh bien, vous vous apercevrez que les morts ne bougent pas, vous pouvez toujours gueuler. Pourquoi ils ne bougent pas? Parce qu'il leur manque un haut fait extraordinaire de Dieu qui leur donne la vie, c'est ça. Donc, il ne suffit pas d'entendre une parole, mais il faut que Dieu entre dans quelqu'un et le ressuscite et lui donne la vie. Et comme il a eu le pouvoir autrefois de ressusciter Lazare en lui disant « Lazare, sors », c'est de cet ordre-ci, hein, eh bien il a le pouvoir aujourd'hui de faire sortir de leur mort spirituelle tels qui écoutent en les appelant chacun par leur nom. Il ne s'agit pas de maintenant de se poser des questions au sujet d'un autre. C'est souvent comme cela dans l'évangélisation. On vous dit qu'elle viendra-t-il de telle peuplade qui n'a pas entendu l'évangile dans telle région, etc., du monde, etc. Toujours je réponds, j'essaie de répondre à toute question honnête, il faut des réponses honnêtes, disait Francis Schaeffer, il faut toujours répondre. Mais je réponds courtement et puis je dis, maintenant, ce soir, ce qui importe, c'est pas les gens qui sont là-bas, mais c'est toi qui es en face de moi, c'est toi qui importe. Et il faut pas se poser des questions au sujet des autres, etc., mais il s'agit maintenant de toi. Nous sommes tous, n'est-il pas vrai, de ceux qui cherchent, poursuivant le sens de notre vie si fugitive, et toi aussi, tu cherches, consciemment ou inconsciemment, ayant déjà trouvé, pour chercher plus encore, ou n'ayant pas trouvé, mais cherchant toujours. Peut-être cherches-tu peu, peut-être cherches-tu mal, peut-être cherches-tu ailleurs qu'il ne faut le but, l'absolu de ta recherche, mais sache-le, tu cherches. Et tu ne dois pas, tu ne peux pas t'arrêter de chercher, puisque un autre te cherche et que tu es fait pour lui. Oui, Nicodème, devant Jésus, c'est toi. Toi avec ta question profonde, toi avec la question que tu es pour toi-même, toi avec ta responsabilité, toi sous la souveraineté de Dieu. Tu es là, silencieux devant Jésus qui te parle, priant pour toi, je te laisse maintenant, seul à seul avec lui, que vas-tu répondre ? Vas-tu croire ? Crois-tu déjà ? Voilà le résumé, si vous voulez, d'un discours qu'un évangéliste réformé au sens souligné du mot pourrait faire à un agnostique en recherche. C'est dire que, contrairement à ce que l'on pense, on peut croire à la doctrine de l'élection et être évangéliste. Lorsque nous parlons de la prédestination, il faut, et c'est après le sermon, voilà le coup, il faut prendre le là, le diapason. Il faut prendre le là, j'allais dire, au diapason de l'Écriture, et évidemment les grands textes, vous les connaissez, c'est Romains 9, surtout versets 7 à 33, ce serait Philippiens 2, verset 12, Éphésiens 1, et Marc 4, chapitre 10 à 13, si du moins vous avez une version qui a la bonté de vous indiquer que le texte grec dit. Alors, il serait vain de prétendre exposer en détail et de défendre dans les limites de ce petit cours la doctrine de la souveraineté de Dieu. Parler de la prédestination, c'est regarder au-delà de la réalité temporelle où il y a sans cesse un avant et un après. Il faut regarder au-delà de cela pour entrevoir l'éternité sans succession, sans commencement, sans fin. Pour Dieu, Vercingétorix, Louis XIV, Charles de Gaulle, Mitterrand et puis des souverains à venir, Bon, en tout cas, tous ces gens et d'autres sont dans le présent de Dieu, sont dans l'aujourd'hui de Dieu. Ils sont aussi présents à Dieu les uns que les autres. Nous, lorsque nous abordons ce problème difficile de la prédestination, nous entrons dans une succession dans le temps. Alors, on a du mal à penser que quelque chose à venir, la conversion de quelqu'un, soit pour Dieu à présent. Et alors, il peut très bien voir ce qui se passe dans le présent de Dieu. Dieu peut voir dans son présent un acte qui, pour moi, limité avec les problèmes du temps, est un acte à venir. Dieu n'est pas débordé par le temps. Il n'y a pas ni avant ni après. Parler de la prédestination, c'est aussi, j'en suis conscient tout à fait, entrer dans le conseil, ou entrer, faire semblant, entrer dans le conseil incompréhensible de Dieu que les anges adorent. Ici, on peut dire qui potest capere capiat. Qui peut comprendre, comprend. Quand on parle de la prédestination, le drame vient que, souvent, on veut opposer deux grandeurs, l'une à l'autre, qui se limiteraient mutuellement. S'il s'agit de Dieu et de la créature libre. Et généralement, ce que l'on donne à l'un, on enlève à l'autre. Si on donne à l'homme de la responsabilité, on enlève un peu de la souveraineté de Dieu, et inversement. Voilà comment on voit la chose. Vous avez là deux grandeurs qu'il faut maintenir ensemble. C'est là la difficulté. La souveraineté de Dieu et la décision humaine. Vous aurez trois tendances. Vous aurez d'abord le fameux hyper H-Y-P-E-R, calvinisme. Évidemment, le mot calvinisme est à mettre entre guillemets, parce que le nom de Dieu est attaché à tort à cette position. En fait, la doctrine en cause n'est pas du tout un calvinisme plus strict ou extrême, c'est une autre doctrine. Et ce pseudo-hyper-calvinisme voudrait établir une symétrie entre élection et réprobation conçue dans un décret de Dieu impersonnel, pétrifié, abstrait. Et il y a confusion entre l'élection et un acte arbitraire. Une espèce de fatalisme, de volonté pure, de quasi-despotisme, de bon plaisir divin, de destin fatal et arbitraire par lequel les uns sont choisis pour le salut et les autres condamnés à l'incrédulité et la mort. Et c'est un déterminisme, un fatalisme, où Dieu, donc, par son bon plaisir, choisi pour le salut ou choisi pour la damnation. Par souci de rendre gloire à Dieu, ce qui est très bien, évidemment. Mais sa souveraineté est accentuée à tel point que la part de l'homme perd toute portée et toute signification. Et pour certains, même, hyper la prédication ne s'adresse pas à tous les hommes. mais cette prédication s'adresse aux seuls élus. Il ne faudrait inviter à la repentance que les personnes qui donneraient des signes d'élection, comme par exemple le sentiment de péché. Alors là, évidemment, s'il y a quelqu'un qui donne un signe de sentiment de péché, alors on lui prêche. On ne prêche pas à tous les gens. On appelle d'ailleurs ces personnes qui auraient cette conscience du péché, par exemple, des saints symboles sineux, vous voyez, des pécheurs qui ressentent les pécheurs. En fait, dans cette position hyper-calviniste, il y a souveraineté de Dieu, mais il n'y a pas appel à la décision adressée à tous. Cette souveraineté de Dieu apparaît comme celle, finalement, d'un despote, d'un tyran, alors que la puissance de Dieu est à la disposition de sa sagesse et de sa sainteté. Dieu a une puissance telle, dit Calvin lui-même, que sa justice en est la vraie règle. Et la justice est la règle de la puissance de Dieu. Les actes souverains de Dieu restent liés à sa propre sagesse et à sa bonté. Dieu n'est pas étranger à toute loi. Dieu n'est pas ex lex, c'est-à-dire hors loi, hors la loi. Pas du tout. Puisque Dieu est loi à soi-même. Alors, il y a cette position extrême qui, elle, accentue trop la souveraineté de Dieu aux dépens, finalement, de la responsabilité de l'homme. En face, vous avez, après le pseudo-hyper-calvinisme, avec des doubles guillemets, vous avez en face l'arminianisme. Bon, c'est le nom qu'on lui a donné au XVIIe siècle d'un certain Arminius, A-R-M-I-N-I-U-S, mort en 1609, mais vous avez tout un courant dans l'histoire de l'Église. Arminius n'a pas inventé la chose. Au 5e siècle, vous avez l'excellent Pélage. Je dis excellent parce qu'il m'est sympathique, ce Pélage, toujours, qui est, lui, optimiste sur le vouloir de l'homme. Et il pense qu'on peut arriver par son propre vouloir à décider de toute chose quasiment indépendamment de Dieu. L'homme, par son libre arbitre, peut finalement se sauver lui-même. Vous aurez, au XVIe siècle, un certain Molina, qui est de la contre-réformation, et vous aurez, dans cette position, j'attire votre attention, l'excellent Wesley, évidemment au XVIIIe siècle. Vous aurez au XIXe siècle triomphant le fameux Finet. Il doit falloir qu'un seul aide alors. Hein? Bon, il y en a deux. Vous voulez au choix alors, en fait. Vous en mettez autant que vous en voudrez. Alors, cet arminianisme lui fait le contraire que l'hypercalvinisme. Il valorise la décision et la réponse de l'homme. Il il insiste sur la décision, mais il limite finalement la souveraineté de Dieu. Dieu est souverain, sauf en ce qui concerne, on nous dira, cette petite chose, la décision de l'homme. Oh mon Dieu, qu'est-ce que c'est cette petite chose? C'est cette petite chose qui est la décision de l'homme que Dieu ne prédétermine pas. Il y a une petite place, une petite plage où Dieu n'est pas, finalement. Et ça, c'est l'homme. C'est les petites choses de l'homme. Alors, vous me direz, mais comment se fait-il que ces personnes arméniennes qui hantent nos églises et nos milieux, et encore plus nos petits livres des librairies, comment se fait-il que ces gens, que finalement il y a quand même le mot prédestination dans la Bible plein de fois, qu'est-ce qu'ils en font? Eh bien, ils disent qu'il faut le traduire, le comprendre, même contre le mot lui-même, pré-science. Au fond, voilà ce qu'il voudrait, c'est que la prédestination soit une pré-science, une pré-connaissance. C'est-à-dire, Dieu ne détermine pas, Dieu ne prédétermine pas, c'est-à-dire ne détermine pas à l'avance. Seulement Dieu sait à l'avance. Remarquez, il y en a pas mal. Alors, il y a donc préscience, mais pas prédestination. Hein? Qu'est-ce que la préscience? C'est une futurition, n'est-ce pas? On sait à l'avance, c'est tout. Une futurition d'une réalité qui sera ce que voudra bien décréter l'arbitraire souverain de l'homme. Dieu sait à l'avance que cet homme voudra bien croire ou ne pas croire. Vous voyez, ce n'est plus une prédestination ici, au sens fort, mais c'est une prévision des choix humains. Finalement, ça veut dire qu'il y a en Dieu de l'imprévisible. Il y a un certain indéterminisme. Il y a quelque chose que Dieu ne sait pas. C'est à l'avance, mais ne détermine pas. L'arminianisme voit dans l'action divine et dans l'action humaine deux éléments complémentaires et étaient limitatifs. Deux éléments complémentaires et limitatifs. Là où commence, mettons, l'action divine, l'œuvre et la volonté de Dieu, là s'arrête l'œuvre et la volonté de l'homme, et inversement. Évidemment, cette conception aboutit inévitablement à un synergisme, à une collaboration entre Dieu et l'homme. La part de Dieu dans le salut est certes tenue pour fondamentale, mais elle est complétée par la part de l'homme, toute petite, plus restreinte, mais, à mon avis, décisive. Quand bien même, entre la souveraineté de Dieu et la décision humaine, ici 99% et ici un petit pourcent, tout petit, tout rikiki, ce petit pourcent, c'est rien du tout, mais c'est déterminant. C'est lorsque vous avez un verre qui est trop plein, la dernière petite goutte qui tombe, c'est rien du tout, ce n'est qu'une goutte. Mais c'est une goutte qui fait déborder quand même tout le vase. Or, dans l'Écriture sainte, le vouloir de Dieu ne saurait être mis en échec. Ce que Dieu veut, il parle et la chose arrive. Voilà comment c'est dans l'Écriture. Il commande et la chose est. Dieu accomplit toujours son plan. Jamais dans l'Écriture on voit le dessein de Dieu qui est comme ça, à la dérive, laissé au bon vouloir de certains éléments plus ou moins déterminés. Vous connaissez la formule décapante ici de Pascal qui disait « Il faut à Dieu déterminer la longueur du nez de Cléopâtre s'il veut déterminer la face du monde. » Dieu doit décider de la longueur du nez de Cléopâtre parce que c'est très important, la longueur du nez de Cléopâtre, parce que c'est très important qu'il n'y ait pas une chose, même petite, même ridicule, qui soit complètement laissée en dehors de Dieu. Et vous avez, c'est la bonne nouvelle que je vous annonce, une troisième position, et qui est la foi réformée. Et c'est celle qui est dans ce fameux article 12. Non, non, c'est bon, vous tournerez, vous irez quelque part. Alors, la pensée dans cet article 12 est tout à fait claire. Elle en a le tranchant du glaive. Hein. Certains pécheurs ont été prédestinés à sortir de la corruption où ils ont été plongés et à parvenir au salut, et cela en dehors de toute prévision de quelques bonnes œuvres que ces pécheurs voudraient bien faire, hein, de quelques œuvres méritoires, ou bien de quelques œuvres utiles. Hein, sans les œuvres de l'homme, c'est-à-dire ce n'est pas du tout une préconnaissance, hein, c'est sans savoir ce que l'homme fera, Dieu prédétermine à l'avance et destine à l'avance les uns pour le salut. Et ceux qui ne sont pas les objets de cette élection gratuite sont laissés au juste salaire de leur rébellion et c'est la réprobation. Voilà le résumé criant, choquant. Le calvinisme ne voit pas de tension, il ne voit pas de concurrence entre la souveraineté de Dieu et la responsabilité de l'homme. Calvin part de la révélation biblique et il ne cherchera pas à la rationaliser. Et il va prendre cette réalité de la prédestination comme une réalité positive, dont il ne cherchera pas à réduire les éléments quelque peu mystérieux en éléments plus assimilables à notre conscience. La souveraineté de Dieu et la liberté, la responsabilité de l'homme s'appuient l'un sur l'autre. Hein, ces deux réalités comme les deux arcs-boutants d'une même voûte. Comme en architecture. Ah, voilà, vous avez un arc-boutant, vous avez un autre arc-boutant, vous avez évidemment une clé de voûte qui tient les deux amours. Eh bien, le lieu de la foi réformée veut maintenir les deux choses. Hein. La souveraineté de Dieu, alors il y a une monstruosité au tableau, évidemment, pour la foi réformée. Il faut enlever ce 99%, qui est une monstruosité, pour mettre 100%. L'homme est souverain à 100%. Dieu est souverain à 100%, mais l'homme est responsable 100% aussi. Et la foi réformée veut maintenir ces deux choses. Ces deux réalités sont juxtaposées comme deux arcs-boutants. Chacun de ces concepts est vrai, considéré en lui seul, en lui-même. C'est vrai que Dieu est souverain, c'est vrai que l'homme est responsable, mais le difficile, c'est de les maintenir ensemble. Le difficile, c'est de les croire ensemble. Il y a là deux principes qui semblent tout à fait irréconciliables, tout à fait exclusifs, tout à fait mutuellement limitatifs, hein, considérés dans une certaine logique. Mais ces deux principes sont pourtant bibliquement irréfutables. Et on dira qu'il y a là, pour notre pensée, une antinomie, c'est-à-dire un semblant de contradiction. Ces deux réalités, la souveraineté de Dieu, d'une part, et la responsabilité de l'homme, de l'autre, doivent être acceptées dans leur conjonction antinomique. Hein? On doit maintenir ensemble la souveraineté de Dieu et la responsabilité de l'homme. La souveraineté de Dieu et la responsabilité de l'homme doivent, comme s'arc-bouter en une arche sainte dont la clé de voûte, la clé qui tient les deux arcs-boutants, reste mystérieuse. Et la foi réformée accepte qu'ici, il y ait, pour notre pensée, un mystère. C'est comment ça s'accorde ultimement. Il y en a quelque chose qui échappe l'enfance. Mais les réformés diront tant pis. Nous devons croire ceci, nous devons croire cela. Parce que la foi réformée dira, tout dogme est antinomique. Vous avez la Bible qui est une parole de Dieu à 100%, mais c'est une parole qui est une parole humaine à 100%. Il faut maintenir les deux choses ensemble. Vous avez Jésus-Christ qui est vrai Dieu, mais il est aussi vrai Dieu à 100%, vrai homme à 100%. Si on le pinçait, il avait mal comme un autre homme. Et il faut accorder ces deux choses. Hein? Vous avez le pain de la Seine, c'est vraiment du pain, et pourtant, eh bien, c'est tout à fait le corps du Christ. Et tout dogme, pour être vrai, doit être antithétique. Il y a des choses qu'il faut maintenir ensemble, même si nous avons du mal à savoir.
Je continuerai au prochain cours, car il nous faudra encore une autre heure, évidemment.